Cube Radio.
C'est un Tom Brady émotif qui se dirige vers Green Bay cette semaine, alors qu'il affrontera les Packers de Aaron Rodgers. C'est qui ça, Dan Marino? Peu importe. Les Dolphins ont un nouveau sauveur en Tua Tagovailoa. On en discute avec Alain Poupard, journaliste de Sports Illustrated à Miami. Est-ce que les Bills sont trop forts pour la Ligue? Ils affronteront justement les Dolphins cette semaine dans un match très attendu à Miami. Hurts so good. Incroyable début de saison pour la bande à Jalen Hurts à Philadelphie. Et ils ont de l'improbable compagnie en tête de la division, les Giants de New York. Pendant que tout va bien pour certaines équipes, les partisans des Broncos, des Colts, des Bengals, des Panthers, des Browns et des Raiders finissent leur fin de semaine avec plus de questions que de réponses. Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de la Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de la Zone payante, la quatrième émission, épisode en fait devrais-je dire cette année, de notre quatrième saison. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Je suis en compagnie de l'expert, journaliste au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadaret. Salut, Steph!
Salut, Jean-Nic. Content de te retrouver, puis content de notre invité cette semaine, là, avec la semaine que les Dolphins ont connue. On ne pouvait pas mieux tomber. Là.
Incroyable. Quelle semaine de football en général. Beaucoup de remontées, on va en parler plus tard dans l'émission, mais une remontée du quatrième quart, dont on va se rappeler longtemps, c'était, en tout cas si on est partisans des Dolphins, c'est celle de Tua Tagovailoa en fin de semaine contre les Ravens. Et pour en parler, ben oui, tu l'as dit, Stéphane, on s'en va rejoindre un journaliste, c'est un journaliste du Sports Illustrated qui est à Miami, Alain Poupard. Salut Alain.
Salut les gars, ça va?
Oui, ça va bien. Incroyable remontée. Mais avant de parler de ce qui s'est passé en fin de semaine, Alain, on aimerait, parce que c'est un peu, à chaque semaine, on a un invité à la zone payante et on fait toujours un peu le même questionnaire parce qu'on aime savoir d'où part l'amour de nos invités pour le football. Puis, on aimerait savoir, c'est quoi ton plus vieux souvenir de football? Là, d'abord, toi, t'es un Québécois qui vit à Miami maintenant.
Effectivement. Le premier souvenir que j'ai, puis à moi, je me trompe, c'est la première partie de la NFL que j'ai jamais vue. Ça a été, puis on va donner mon âge, là, la journée de Noël 1971.
Oh!
J'étais chez mes grands-parents, qui avait les Dolphins contre les Chiefs de Kansas City dans une partie de playoff qui a été la plus longue partie dans l'histoire de la NFL, 27-24 en deux prolongations. Puis l'année suivante, on a commencé nos vacances annuelles à Miami. Donc, et de là, en étant amateur de sport...
La saison 72.
La saison 72, ouais.
Qui était... Des victoires...
M'en veux-tu des victoires? Il y en avait 14-0, les trois parties des playoffs. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que moi, je te dirais que, comme en étant quelqu'un qui peut se rappeler de ça, encore parce que je suis vieux, je suis pas convaincu que leur équipe de 73 était pas meilleure que celle de 72. Sauf qu'ils ont perdu deux parties en 73, mais ils étaient épeurants en 73. En 72, ils étaient efficace au max. C'était ça le
opportuniste, gros.
Opportuniste, faisait pas d'erreur mentale pour deux secondes. L'attaque au sol, épuisante, puis qui lâchait pas. Puis très bonne défensive. Mais si tu regardes le résultat dans l'éliminatoire cette année-là, ils ont gagné par 6, 4 et 7 points. Tandis qu'en 73, les trois parties de playoff, ils ont gagné par, je me rappelle bien, 18, 17 puis 17.
Oh, OK, ouais.
C'est une bonne différence.
Mais là, ça, tu nous parles de tes souvenirs de jeunesse. Mais ouais. Comment, parce que je suis convaincu que nos auditeurs se demandent, ouais, mais comment un Québécois en vient à devenir journaliste attitré à couverture des Dolphins? Parce que t'es là au quotidien, tu suis l'équipe à tous les jours depuis quand même plusieurs années. On a le goût de savoir comment t'es tombé dans Marmite.
OK, donc éventuellement, après des années et années de passer nos vacances en Floride, déménagé ici au début des années 80, allé à l'université ici pour étudier le journalisme. Éventuellement, une job dans un journal quotidien qui n'existe maintenant même plus, qui s'appelait le Miami News.
Oh.
Et quand le journal a fermé ses portes, la veille du jour de l'an en 1988, 6 mois plus tard, j'ai été engagé pour travailler pour un journal dédié à la couverture des Dolphins qui s'appelle Dolphin Digest. Et depuis ce temps-là, couvre les Dolphins à plein temps pour autres organisations de médias. Donc, une couple d'années étant le journaliste pour le site de l'équipe elle-même. Puis là, wow. J'étais avec le Sports Illustrated Fan Nation All Dolphins depuis 2020.
C'est ça le rêve américain, dans le fond. Là. On se pose la question. Là. Écoute, partir du Québec et aller couvrir les Dolphins. Là.
Non, c'est pas dire que le rêve, c'était dans les médias sportifs.
Non, je comprends que tu as travaillé fort, mais là, c'est le fun.
Non, pas vraiment. J'étais bien chanceux.
Ah non, mais ça, il y en a qui disent ça des fois. Moi, je me fais dire, hey, tu couvres la NFL, tu es tellement chanceux. C'est vrai, mais je pense qu'à quelque part, on fait sa chance. Il faut le vouloir. C'est un milieu qui est quand même dur à percer. Là. Surtout couvrir une équipe au quotidien comme tu le fais. Il n'y en a pas beaucoup là, des gens de chez nous qui font ça. Là.
Non, non. Et puis, écoute, il faut que tu aies la chance d'avoir les opportunités.
Ouais.
Et il faut que tu capitalises sur tes opportunités parce que sans ça, tu n'en auras pas d'autres. Je fais des blagues en disant que c'est juste la chance. Là. Non, je travaille fort. C'est un métier que j'aime. Fait que c'est une belle combinaison.
En tout cas, moi, en tant que partisan des Dolphins, Alain, je te le dis, je suis très heureux de te lire régulièrement. Puis je trouve que tes textes sont toujours pertinents. C'est pas de la flagornerie, c'est vraiment le cas. Et on est chanceux de t'avoir ici avec nous aujourd'hui et aussi comme journaliste pour les partisans des Dolphins. Et là, on veut en parler des Dolphins parce que là, c'est un peu l'équipe qui buzz là, cette semaine, que tu suis titré à la couverture des Dolphins, tu le sais comment que toi, c'est un des carrières qui, franchement, là, polarise le plus. Là. Oh. Soit il est pourri, on se demande qu'est-ce qu'il fait dans une équipe de la NFL, ou soit, c'est parce que vous l'avez pas encore vu, puis là, on sort toutes sortes de stats pour montrer qu'il est aussi bon que Josh Allen. Mm-hmm. Fait que, est-ce que la performance de toi de la fin de semaine va faire taire les critiques plus que 7 jours?
Pas si, pas capable de répéter les exploits, pas au même degré, mais si ça fait patate, excuse-moi l'expression, si ça fait patate contre Buffalo dimanche, les mêmes questions vont être là. Puis comme dans l'intro, j'ai remarqué que tu as dit que Tua a amené les Dolphins de leur déficit. Je m'excuse, moi je te dirais que les Dolphins sont venus de là. Tua, c'est comme le chef d'orchestre qui a présentement des musiciens. Puis là, je parle avec la vitesse qu'ils ont en attaque, là, avec Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mostert, Chase Edmonds. Puis là, tu parles, Gesicki, c'est pas un gars bien vite, mais c'est un gars acrobatique, puis on a vu son attrapé dans la zone début. Donc, moi, je te dirais que, puis j'avais écrit ça avant le début de la saison, dans cette attaque-là, la pression est très, très, très diminué pour un carrière. Comme je te dirais que moi, dimanche, si tu regardes ça, la protection que tu as eue de la ligne offensive, superbe. Il y a eu une séquence, une séquence au deuxième quart où que Justin Houston, 3 fois en fil, ils l'ont laissé aller pour une raison que je comprends pas. Mais anyway, à part ces 3 jeux-là, tout le temps qu'ils voulaient avoir là, puis c'est pas nouveau ça, il y a pas personne qui est capable de couvrir Tyreek Hill puis Jalen Waddle présentement. Puis moi, j'ai vu ça tout le long du camp d'entraînement. Puis je me demandais, bon, est-ce que la défensive, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de les ralentir? Est-ce que c'est une combinaison de, ils font des expérimentations défensivement, puis ils veulent aussi donner la confiance à l'attaque? Parce que tout le temps du camp d'entraînement, Hill puis Waddle, ils étaient tout ouverts. Même chose de pratique avec Tampa Bay. Puis là, la pratique contre New England, Tyreek Hill t'a ouvert toute la journée. Waddle un peu aussi. Si tu regardes, ils ont touché 42 verges. Quand il fait le petit move à l'intérieur, il y a quand même une belle fenêtre pour faire la passe. Puis après ça, c'est zip, bip, bip, dans la zone début. Puis dimanche passé, tout ouvert. Donc, la pression pour un corps arrière présentement, de la manière que l'attaque des Dolphins fonctionne, est pas très grande. Puis ça, c'est un argument que j'ai tout le temps avec les gens sur Twitter, là, que bon, t'es un hater qui appelle, là, tu veux pas donner crédit. Oui, mais donner crédit, tu as fait une très bonne performance.
Mais moi, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à le changer contre Dan Marino encore, là.
Non, je suis pas prêt à l'échanger pour Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Aaron Rodgers, Tom Brady, il y en a beaucoup. Parce que les Dolphins, écoute, comme on sait, il est dans sa troisième saison, donc la saison morte prochaine, les Dolphins ont le choix. C'est le premier temps où ils peuvent lui donner un contrat de long terme. Numéro un, numéro deux, ils ont aussi jusqu'au mois de mai pour décider l'option que logiquement ils vont faire parce que c'est une autre année d'évaluation que tu vas avoir, là. Mais avant de... Parce qu'un carrière de ces temps-ci, là, tu parles 45-50 millions par année. Est-ce qu'on est prêt présentement à donner ça à toi pour 5-6 ans? Moi, je suis pas convaincu que oui. Fait que faudra en voir encore plus. Puis, moi, je veux le voir quand les choses sont pas parfaites alentour de lui. Puis, ça a toujours été mon gros point de doute avec lui. C'est quand les circonstances alentour sont comme il était dimanche en deuxième demi contre Baltimore. Puis, Baltimore, la secondaire, ça fait dur.
C'est effondré.
Quand les circonstances alentour de lui seront pas parfaites, puis il faut qu'il fasse des jeux de lui-même, puis que c'est pas le talent alentour de lui, est-ce qu'il va être capable de le faire? Ça, c'est la question, puis je suis pas encore au point de dire que oui, aucun doute.
T'as très bien fait le tour, Alain, de la situation avec Tua. On va laisser maintenant les amateurs de football porter leur jugement. Ils sont très capables de le faire avec Tua. Il y a juste ça, des jugements là, d'un bord ou de l'autre. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles aussi de Mike McDaniel, nouvel entraîneur-chef. Tu sais, il y a des fois avec les entraîneurs, on le sait, ça travaille facilement, c'est le fun. Avec d'autres, c'est très compliqué, c'est des régimes de terreur. Comment ça se passe avec Mike McDaniel, puis comment tu évalues la progression de l'équipe depuis qu'il est arrivé?
Oui, tout de suite, en partant, ça prend pas longtemps pour voir une espèce de grosse différence de personnalité entre lui et Brian Flores, l'ancien coach.
Qui venait des Pats.
Pardon?
Qui venait de l'école des Pats. Oui. La pomme n'était pas tombée loin de l'arbre, comme on dit.
Non. Puis ça, généralement parlant, ça marche pas, cette approche-là. Parce qu'on regarde Joe Judge, Matt Patricia, des cas comme ça, là, ça marche pas, cette approche-là. Mais Brian Flores est très, très intelligent quand ça en vient des ex et des O, comme il appelle. Sauf que sa manière de gérer ses joueurs, il a besoin de faire du progrès là-dedans. McDaniel, écoute, de ce qu'on voit de nous, parce que derrière les portes fermées, c'est pas toujours la même chose, mais de ce qu'on peut voir de nous et de ce que les joueurs nous disent, c'est son approche, il est bien plus amical, il est super intelligent, il a une personnalité différente, tu vois ses conférences de presse, c'est toujours des jokes ici par là, mais il est super intelligent, il est arrivé à Miami avec une réputation d'être comme un génie offensif, puis moi, quand j'ai parlé de toi, là, puis ce qu'il produit, avec la vitesse qu'il a en attaque, c'est pas mal génial. Là, la grosse question avec Mike McDaniel, c'était, bon, OK, est-ce qu'il peut mener un groupe? Oui, il est intelligent, oui, il a une belle personne, mais est-ce que ça peut être un leader de gars? Écoute, c'est un leader de... Quand tu tires l'arrière, 28 à 3, puis 35 à 14, c'est un bon moment pour voir s'il est capable de ramener un groupe. Ils ont passé ce test-là, je dirais, moi, avec brillance. Fait que, comme je te dis, jusqu'à maintenant, j'y vois les... Oh, pardon, les mots en français m'échappent. Ici, là, les odds pour l'entraîneur de l'année, mais c'est Mike McDaniel qui est maintenant meneur.
On parle
de deux semaines, là, mais...
Mais comme tu dis, Mike McDaniel, tu sais, il est comique, là, il fait toutes sortes de mots d'esprit dans les conférences de presse. Ça va bien quand tu gagnes. Mais, tu sais, mettons qu'ils sont à 3-6, là, puis qu'ils commencent à faire des blagues, là, à tout bout de champ dans les points de presse, peut-être qu'il va être moins bien reçu, là.
Oui, mais d'un autre côté, moi, ce que je te dirais peut-être, c'est que si tu présentes une ère de que c'est pas, tu sais, la fin du monde est arrivée, parce qu'à 3-6, ta saison n'est pas finie non plus. Fait que non, tu veux pas faire des blagues que ha, 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 tout est beau, tout est parfait, mais d'un autre côté, tu veux pas être, tu sais, comme en funéraire non plus. Fait que puis il est assez intelligent où quand c'est le temps d'arrêter de blaguer, il va le faire. Fait que, mais le point que je mettrais là-dessus, c'est que jusqu'à présent, c'est bien difficile de trouver n'importe quoi qui ne va pas parfaitement avec Mike McDaniel.
Bon, hey, on aimerait ça aussi t'utiliser comme journaliste qui est en Floride, là. On sait que depuis, c'est la troisième année maintenant de Tom Brady à Tampa Bay. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact de Tom Brady en Floride sur le football en général, sur l'ambiance? Est-ce qu'il y a plus d'attention? Comment tu vois ça, l'arrivée de Tom Brady en Floride?
Pas un gros impact à Miami, là, parce que c'est deux équipes différentes. Puis l'impact à Miami, c'est juste les rumeurs qu'il y a eu partout. Ouais. Puis les Dolphins avec leur essai. D'aller le faire convaincre de
qui leur ont coûté un premier choix repêchage par ailleurs.
Ouais. Mais ouais. Sur ce point-là, il y en a bien qui te diraient que parce que l'idée de encore moins le mot français mais va m'échapper encore une fois, là, mais l'idée de tampering, là, ouais. Si on pense vraiment que les Dolphins sont les seuls qui ont jamais fait ça avec Tom Brady, on est très naïf. Mais l'autre chose, si on se rappelle bien, une des accusations de Brian Flores, c'est que Stephen Ross, le propriétaire, il voulait être payé d'un bonus pour chaque défaite en 2019. Mais ça, c'est pas une chose que la Ligue voulait admettre pour deux secondes. Fait que c'est bien plus facile de dire, OK, on vous trouve coupable du tampering avec Tom Brady puis Sean Payton pour l'avoir comme entraîneur. Fait qu'on va vous...
On ferme donner, les yeux sur les défaites. Là.
Ouais. Ou on n'a pas d'évidence pour...
OK, mais toi, tu penses que c'est un peu l'histoire derrière tout ça, là, c'est qu'ils l'auront fait, ils l'auront donné une tape sur les doigts pour autre chose que la vraie chose pour laquelle il aurait dû. Là.
Disons que ça serait pas surprenant. OK. attends ça comme ça. Mais pour revenir à la question, non, à part de ça, l'impact de Tom Brady à Miami, pas vraiment. À Tampa Bay, écoute, ils ont gagné le Super Bowl la première saison qui était là. Fait que, je sais pas, Tampa Bay, c'est à 4 heures d'ici, je peux pas vraiment te dire, l'impact qu'il y a là, j'imagine que oui, effectivement. Mais Tampa Bay, c'est quand même une équipe pas mauvaise avant qu'il soit arrivé. Parce que ça, c'est une autre chose. Faut pas se tromper. C'est pas qu'il s'est joint à une équipe poche, là. Quand il est arrivé là en 2020, il y avait une bonne équipe qui ça le prenait encore ailleurs.
C'est ça. Les armes étaient déjà là.
Ouais. Puis en plus de ça, il est allé chercher Rob Gronkowski, il est allé chercher. Quoi, donc, d'autres joueurs, c'est pas Antonio Brown qui est arrivé cette saison-là ou la saison suivante. Fait que ça n'avait pas été difficile d'aller recruter des joueurs. Mais en fait, d'impact à Tampa Bay, j'imaginerais que ça serait très gros. Ici à Miami, non, pas vraiment. Là, l'impact, c'est McDaniel, Tyreek Hill, puis Tua pour ceux qui y croient.
On va rester à Miami, là, tu sais, parce qu'il y a un gros match là, qui va être assez baromètre, assez important pour évaluer où en sont vraiment les Dolphins contre les Bills en fin de semaine. Qu'est-ce que tu entrevois, toi, de ton côté? Est-ce que tu penses que les Dolphins peuvent mettre fin à leur série de misère? Ça a été très, très, très difficile contre les Bills dans les dernières années. Des matchs à sens unique, des bonnes vieilles volées, comme on dit chez nous. T'as-tu l'impression que le vent favorable qui souffle sur Miami là, peut amener un petit peu un changement de scénario?
Oui, puis moi, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une couple de raisons. Les comptes finales, si tu regardes l'année passée, 35-0 puis 26-11, c'est laid. Si tu examines les matchs à la mi-temps, la première partie, c'était 14-0. Puis les Dolphins avaient, si je ne me trompe pas, deux possessions offensivement où ce qui était rendu au 20 ou 25 de Buffalo, pas été capable de faire de points. La deuxième partie, c'était 3-3 à la mi-temps. Donc, puis ces deux parties-là, la défense est comme effondrue en deuxième demi, en grosse raison parce que l'attaque n'était pas rien capable de faire. Mm-hmm. Là, comme on a vu, l'attaque est pas mal différente.
C'est pas la même game.
Pas même game, pas pantoute. Une autre chose, Buffalo a joué lundi soir, ils s'en vont sur la route sur une semaine courte, comme ils appellent. En plus de ça, Buffalo, leur demi de coin partant, Dane Jackson, j'imagine qu'il ne jouera pas après avoir joué lundi soir. Mike Hyde, il a laissé la partie. Je sais pas exactement c'est quoi son status pour la match. Gabriel Davis, un de leurs deux receveurs partants, il n'a pas joué lundi soir. Ed Oliver,
le gros plaqueur.
Ouais, il n'a pas joué lundi soir. Mm-hmm. Un de leurs joueurs de ligne offensive, c'est pas un partant, là, mais si jamais il y a une blessure, Bobby Hart, qui est suspendu après avoir d'essayer de donner un coup de poing à un joueur de Tennessee après la partie lundi soir. Il l'a manqué, il a frappé un coach à la place. Fait que Buffalo, ils ont des problèmes de personnel présentement, donc ça, c'est un autre facteur. Quel autre facteur qu'il y a? C'est tout, c'est trois facteurs.
C'est déjà pas mal, c'est à considérer, là, honnêtement.
Oui, c'est à considérer que, coach, on ne sait pas ce qui va arriver, parce que si je le savais, je terminerais notre entrevue présentement, j'irais prendre un vol à Vegas, puis je mettrais tout mon argent sur la marque. Fait que mais je te dirais que logiquement, l'idée que ça va être un autre claque pour les Dolphins, je suis pas convaincu.
Ben, merci beaucoup, Alain, d'avoir participé à notre podcast aujourd'hui, puis surtout dans cette semaine là très effervescente pour l'équipe que tu couvres à Miami, les Dolphins. On va souhaiter que, en tout cas, en tant que partisan des Dolphins, que tu aies raison, puis que l'équipe de Mike McDaniels réussisse à tenir tête aux Bills, puis qu'on ait un bon match à 1h dimanche soir, dimanche en fait. Je te remercie.
C'est comme tragique, moi, que je sais pas si ça vous affecte du tout, là, mais que l'équipe numéro 1 d'annonceurs de la télévision, ils seront pas là. Ils vont être pour le match de Kansas City à Indianapolis.
Ouais, ça, c'est un peu ridicule. Là.
Parce que le choix est fait.
Faut que tu t'adaptes. Là. Je comprends qu'ils choisissent ça des semaines à l'avance, mais adapte-toi à la NFL telle qu'elle est dans le moment. Là. Ouais. Bon point. Puis moi, je dirais juste à Alain, merci beaucoup. Puis aux auditeurs, si vous voulez croiser Alain, vous demandez c'est qui, puis il est ami. Hey, je suis ami. Cherchez une calotte des Expos, vous allez le trouver. Il a toujours sa casquette des Expos. Moi, à un moment donné, j'étais au Combine à Indianapolis l'an passé. Je disais, Alain, j'aimerais ça qu'on se voit, qu'on soupe ensemble. Oh, oui, il dit, tu vas me trouver facilement dans la salle des médias. Je me demandais bien, la salle des médias est immense, mais ça n'a pas été long que j'ai vu la casquette des Expos. Donc, point de repère pour tout le monde.
Merci, bonjour. Alain. Bon match en fin de semaine, bonne fin de saison, puis au plaisir de se reparler bientôt.
Ouais, merci les gars.
Salut.